Je ne sais pas vous, mais j'ai parfois l'impression d'avoir déjà vécu des événements quand ils arrivent. Ce sentiment de déjà-vu est troublant. À chaque fois que cela se produit, je marque un temps d'arrêt, j'essaye de dompter mon cerveau. Est-ce vraiment déjà arrivé ou est-ce que je commence à perdre sérieusement la boule? Je me mets alors à rêver de prédire le futur proche. Imaginez ce qu'on pourrait faire. Éviter les accidents, changer le cours des événements, ne pas prononcer les mots qui dépassent notre pensée, mais qui sont là pour toujours. Ce pouvoir, je le sais, je ne l'aurai jamais. Quand j'étais adolescente, il y avait une série à la télé que je ne loupais pour rien au monde, Demain à la Une. Vous vous rappelez, le héros, OS, devenait une sorte de héros, AUT. Il pouvait annoncer ce qui allait arriver. Tous les matins à 6h30, il était réveillé par les miaulements d'un gros chat roux assis sur un exemplaire du journal du lendemain. J'ai longtemps rêvé d'être ce type. Avec le temps et mes lectures d'étudiante, j'ai compris que ce pouvoir magique, quelques rares élus en disposaient. Eux, ce sont les poètes, ces êtres intermédiaires entre les cieux et les hommes. Ils semblent voir avant nous, simples mortels. Et les exemples sont nombreux. Vous pourrez me rétorquer que c'est moi, lectrice, qui veut y voir des prémonitions. Peut-être, je ne tiens pas à avoir raison, mais je veux croire que la littérature, ce n'est pas l'horoscope. Il y a chez les poètes un temps d'avance sur l'actualité.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Leïla Kaddour.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac de l'été, votre rendez-vous culture tous les jours de la semaine sur France Inter pour vous parler de tout ce qui nous met en joie. Aujourd'hui, un auteur, une gueule cassée qui tutoie les cimes, dialogue avec les gargouilles, surnommé le prince des chats. Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour.
Vous publiez trois textes aux éditions Équateur sous le titre Notre-Dame de Paris, ô reine de douleur, titre élégiaque au possible. Trois textes consacrés à la cathédrale, écrits à des moments différents de votre vie. Un livre court qui se lit vraiment avec bonheur, je voulais vous le dire. Et tous les bénéfices de la vente seront reversés à la restauration de Notre-Dame qui a été meurtrie le 15 avril 2019. Est-ce que vous avez la sensation, comme moi, Sylvain Tesson, que la littérature a un temps d'avance?
La sensation, oui. Je n'ai jamais eu en moi, je n'ai jamais éprouvé le mécanisme du déjà-vu.
C'est vrai, jamais.
Jamais, mais je suis assez d'accord avec tout ce que vous venez d'écrire. Le vrai voyant, c'est-à-dire le poète, voit que les choses apparaissent parce qu'il les a écrits. Vous savez, c'est une phrase de Proust dans Le Côté de chez Swann. Nous étions à l'âge où nous pensions que nous pouvions créer ce que nous nommions.
Ouais.
Et moi, j'ai beaucoup pratiqué la cathédrale de Notre-Dame, mais je n'ai jamais eu la vision cauchemardesque de la flèche en feu. Nerval l'a eu.
Oui, c'est vrai.
Et Victor Hugo aussi.
Hugo aussi. C'est quoi? C'est le pouvoir performatif des mots. Fiat lux, et ça y est.
Oui,
c'est ce divin,
que vous,
ça.
C'est ce que vous appelez le temps d'avance. C'est cette capacité du poète ou du vrai artiste, de savoir ce qui va advenir. Mais on peut peut-être apporter une autre explication, c'est que les choses finalement ne se renouvellent pas tellement. Tout se détruit, tout se relève, et donc il suffit de décrire une destruction pour qu'elle apparaisse. C'est un mot de Elsa Triolet qui est dingue, qui disait, dans d'autres termes, ce que vous venez d'évoquer, le meilleur moyen d'être prophétique et de se montrer pessimiste.
Moi, la dernière fois, ça remonte plus loin.
Pour commencer cette émission, Sylvain Tesson, on fait un peu les choses à l'envers avec un questionnaire la dernière fois. La dernière fois que vous vous êtes dit, je ne suis vraiment pas un enfant de ce siècle.
Oh, je me le dis en permanence.
C'est vrai.
Oui, la dernière fois, c'est en venant en France Inter.
Ah bon?
C'est-à-dire il y a quelques minutes. Parce que je n'ai pas beaucoup de goût pour le motocross et que j'ai eu beaucoup de mal à arriver ici.
Oui, vous avez fait beaucoup d'efforts pour être avec nous, on vous en remercie. La dernière fois, Sylvain Tesson, que vous avez oublié un rendez-vous?
C'est quand j'ai dû passer chez... C'est presque pas une blague. En entreprise des pompes funèbres pour choisir mon propre caveau. Et comme j'ai survécu, je ne suis pas allé au rendez-vous. Le rendez-vous avec Dieu, voilà, je l'ai raté.
Ça, je vous l'avais raté et on s'en réjouit.
Merci.
Et vous aussi, j'espère.
Oui, moi je suis très content. Ce sera pour une prochaine fois.
Une prochaine.
J'essaierai de faire mieux.
Ça viendra. La dernière fois que vous avez écrit une lettre, C'était quand et c'était à qui?
En permanence des cartes postales. C'est l'exercice que je préfère pour saisir un moment.
Et elle ressemble à quoi, votre écriture? Je me pose toujours cette question avec les auteurs.
Classique, à la ronde, avec des pleins et des déliés.
Facile à lire?
Je crois, enfin, qui suis-je pour le dire? Je ne m'adresse pas des propres lettres, mais enfin, je me relis beaucoup j'ai l'impression que je suis plutôt... Je penche un peu à droite.
Ah oui, c'est quoi ça? C'est une indication d'une...
D'un équilibre psychique et d'une stabilité mentale parfaite.
Oui, c'est ça, on peut faire une étude de graphologie. Et vous écrivez des cartes postales, mais vous êtes toujours en mouvement, Sylvain Tesson. Où est-ce qu'on vous écrit?
Chez moi, à Paris. Je reçois quand même beaucoup de courriers parce que il m'arrive de temps en temps de dire que c'est merveilleux de recevoir des lettres. Alors... beaucoup d'amis me font ce signe de m'en envoyer. Puis j'aime bien, moi, d'entretenir une
correspondance
relation épistolaire.
Ouais. Oui. S'il fallait entretenir une relation épistolaire avec quelqu'un de disparu, ça serait avec qui?
Je lui écrirais des lettres d'admiration. Je connais son adresse, je sais où il est mort. C'est tout près de chez moi parce que j'habite près de Notre-Dame. C'est au quai aux Fleurs, c'était Jean Kélévitch. Et je lui écrirais une carte postale à laquelle il ne répondrait pas, parce qu'il avait d'autres choses à faire. Il réfléchissait, il pensait, il bâtissait une œuvre. Et moi, je lui dirais à la fois mon admiration, et puis j'essaierais de faire ce qu'il faisait. Mais moi, j'essaierais, je tenterais. C'est-à-dire de saisir des je ne sais quoi et des presque rien. Ce sont ces expressions, oui. Et c'est la définition de la carte postale, le je ne sais quoi et le presque rien.
Et la dernière fois, Sylvain Tesson, et on s'arrêtera là, qu'on vous a demandé un selfie dans la rue. Je connais votre rapport aux réseaux sociaux. Vous acceptez?
Non, je n'accepte pas et on me l'a jamais vraiment demandé.
C'est vrai.
Et puis je dois avoir une trop sale gueule pour inspirer les selfies, enfin, à moins de chasser les monstres.
Sylvain Tesson, dans ce Mac de l'été, et ce recueil donc de trois textes consacrés à Notre-Dame. Le premier retrace vos escalades entre 90 et 2000. Le deuxième, comment la cathédrale vous a sauvé, on va y revenir. Et le dernier, c'est une déclaration d'amour, finalement, la nuit du bûcher. On va revivre ce moment douloureux. Nous sommes le lundi 15 avril, aux alentours de 20h. Notre-Dame est en feu et tous les yeux sont rivés en direction de la flèche.
On va parler dans un instant de ce qu'on a là en face de nous, encore une fois sur des images. La flèche de Notre-Dame est en feu. Ouais. Je ne sais même pas si elle est encore debout au moment où on se parle. On va vous donner des informations. La flèche est tombée. Notre-Dame vient de tomber.
Fabienne Sintès sur France Inter, c'était en direct le 15 avril.
Elle en bégayait.
C'est une minute qui peut blesser un siècle. C'est ce que disait Hugo dans L'année terrible en 1872. Et vous étiez où quand
Moi,
le
j'étais
drame...
à Val d'Isère en train de présenter un festival d'aventure. Et je ne sais pas s'il y a des signes secrets, des rivières souterraines qui se tissent et qui se trament entre les événements. Mais le film que nous projetions ce jour-là était un film d'Éric Valli sur le tremblement de terre qui avait à moitié rasé la ville de Katmandou en écroulant un certain nombre de monuments. Et nous avons dit un mot à propos de la flèche devant le public. Et Éric Valli, pendant une heure, a fait une très belle intervention sur le thème des accidents, des apocalypses, des séismes, des écroulements, des grands moments de cauchemar, finalement, qui arrivent dans la vie d'une société. Et il nous avait dit, peut-être faudra-t-il que nous nous habituions à vivre un moment où les accidents vont se multiplier de façon de plus en plus rapprochée. C'est la thèse de Paul Virilio, nous rentrons dans un moment de l'accident.
Et est-ce que vous aviez vu les images, ou le soir vous êtes allé voir les images, vous avez eu besoin de voir pour réaliser ce qui a été le cas de beaucoup d'entre nous?
Pas tellement.
Oui.
Pas tellement. Je n'aime pas beaucoup l'image, je regarde très peu les images. Je l'ai vu une fois sur un téléphone que m'a montré quelqu'un qui était dans le public. J'ai vu la flèche tomber, cette image je la graverai toujours en moi. Mais il me suffit d'une fois, je pratique pas tellement l'auto-matraquage par l'image.
Bon, un des premiers réflexes que j'ai eu, ça a été de me plonger ce soir-là dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, d'y rechercher peut-être un peu bêtement l'extrait qui semblait comme annonciateur du drame.
Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes comme l'eau qui jaillit des mille trous de l'arrosoir.
La lecture de Guillaume Gallienne. Comment est-ce qu'on fait le deuil de quelque chose qu'on pensait éternel, Sylvain Tesson ?
Il faut surtout pas en faire le deuil. Il faut surtout pas en faire le deuil. Surtout que quand on est un Parisien et qu'on vit donc devant une image symbolique et archétypique et une image qui appartient à votre décor quasiment inconscient. C'était la Flèche, c'était un spectacle qu'on voyait en permanence. D'ailleurs, les Parisiens se sont aperçus qu'ils avaient une amitié avec ce spectacle ordinaire. Enfin, c'est la vieille dialectique de ce qu'on a sous les yeux et qu'on néglige parce que précisément on l'a sous les yeux. Et le jour où on l'a plus sous les yeux, on s'aperçoit qu'on y tenait beaucoup. Enfin, c'est la très vieille histoire de la vie. Ne méprisez pas ce qui est sous vos yeux. C'est ça que peut-être nous dit ce drame. Je crois qu'on n'en fait pas le deuil. Je crois qu'il faut s'en souvenir et ne surtout pas essayer de se consoler.
On cherche en tout cas des explications dans votre premier texte, dans ce recueil. Vous vous interrogez, et si nous méritions cet effondrement, est-ce que finalement la Flèche n'a pas décidé de se retirer, vous dites, lassée par le bruit et la laideur. Cette chute, c'est pas un simple événement qui est entré dans l'histoire des hommes, c'est, vous voyez, un signe là-dedans.
Oui, moi je ne crois pas au ciel. Je ne crois pas aux signes, mais je veux me forcer à y croire. Ça s'appelle l'esprit poétique. Ça s'appelle la tentative de prendre le monde et nos existences comme des possibilités de voir des signes. Je sais qu'il y a eu, à la suite de cette nuit du 15 avril, il y a eu un grand débat, comme nous aimons tellement, nous autres Français, en faire. Il y a eu un grand débat entre ceux qui disaient « il faut surtout pas considérer que c'est un signe, car le ciel n'existe pas, c'est un court-circuit n'est pas un signe ». Puis d'autres qui disaient « mais si, c'est un signe, moi j'appartiens à cela ». Bien que, encore une fois, je n'y crois pas, mais je trouve que c'est merveilleux de se forcer à y croire, parce que ça permet de mettre une épaisseur dans la vie. Alors oui, moi j'ai l'impression qu'on pourrait très bien voir cet incendie comme un retrait. Il y a ce mot de... D'ailleurs, pas de moi, c'est un mot de Léon Blois dans son journal. Léon Blois dit « Dieu se retire », comme s'il se retirait sur la pointe des pieds, à reculons, à reculons. On peut avoir l'impression que la Flèche, tout à coup, se retire.
On est toujours sur France Inter avec Sylvain Tesson. Il est 18h29, presque 30. On écoute tout de suite le son du jour. C'est à tes côtés, Malik Djoudi et Étienne Dao.
Je vous baisse pleinement, veux pas. Et demain, mots magiques, nos paniques. Dans n'importe quelle direction,
si je suis
largué,
là maintenant,
je sais,
je pourrais poser
ma main sur ton épaule. Si tes ailes, c'est bon de t'en repeindre. Si je m'oublie, s'il te plaît, ne m'en repeins. Existe, c'est bon de t'en repeindre. Insiste, je ne t'en
Malik Djoudi, Étienne Dao sur France Inter et Sylvain Tesson toujours avec nous pour Notre-Dame aux Reines de Douleur. Trois textes que vous nous offrez, que vous offrez à la restauration de Notre-Dame. On va surtout se demander ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité du monde de la culture. Et ben, demandez le programme.
Bienvenue à tous au musée de la Pantoufle et de la Charentaise.
Plutôt un autre jour pour la pantoufle et la charentaise. Nous, on va à Amsterdam, au Rijksmuseum, qui se lance dans la plus grande restauration de la ronde de nuit de Rembrandt. Côté mensuration, ça donne 3,8 m de haut, 4,5 m de large, 337 kg, un beau bébé qui n'est pas pudique. Toilettage en public devant les yeux éblouis des visiteurs, si vous voulez jeter un œil. C'est prévu, bande de curieux, la restauration sera retransmise sur Internet. Attention, breaking news, Brigitte prend le pouvoir sur Arte. Je parle de Birgit Nyborg Christensen, la star de la série politique danoise Borgen. La chaîne franco-allemande met à disposition sur son site les trois saisons en replay, les coulisses du pouvoir, la permanente collusion avec les médias. Et là encore, la fiction a précédé de peu l'élection de la première dame au poste de première ministre du Danemark. Elle aussi, mère de deux enfants, comme dans la série, c'est assez troublant.
Je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de laisser au lecteur la liberté dans un livre.
Georges Perec, La vie mode d'emploi. Si vous voulez marcher sur ses traces et celle de l'Oulipo, cet ouvroir de littérature potentielle fondé par Queneau, c'est à Bourges que ça se passe. Des ateliers d'écriture contraintes, des lectures apéro avec des écrivains. Les récréations, c'est jusqu'au 12 juillet et je parie que vous allez bien vous amuser.
Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilégiados têm ouvido igual ao seu.
João Gilberto disparaît et c'est tout le Brésil qui est en deuil. Hier, pour la finale de la Copa América, le stade de Maracanã de Rio a observé une minute de silence à l'ouverture du match. Tout le Brésil attristé. Ou presque, le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, s'est contenté devant les journalistes d'un « c'était une personne connue, nos pensées à la famille, c'est ok comme ça ?» Service minimum dont on se serait bien passé.
Leïla Kadour, le Mac de l'été sur France Inter.
Notre-Dame, ô reine de douleur, avec Sylvain Tesson. Ces textes-là, vous dites, c'est que c'est Dieu qui se retire quand on voit cette flèche qui s'effondre. Vous vous dites chrétien non-croyant, Sylvain Tesson. Est-ce que ça a rebattu les cartes chez vous, dans votre cœur ?
Ça m'a peut-être confirmé l'idée que le rapport adolescent et juvénile que j'avais avec la cathédrale, lorsque je l'avais beaucoup escaladé, quand j'avais... 17 ans, 16 ans, je grimpais là sur la flèche, sur les tours. Je jouais à Quasimodo d'ailleurs en fait,
c'est
puisque
vrai.
Quasimodo était un alpiniste des gargouilles et des pilastres. Si ça a rebattu quelque chose, c'est que je me suis dit qu'il était tout de même temps de considérer d'un autre œil Notre-Dame et que tout n'était pas fait pour le jeu. Mais d'ailleurs, cette recomposition des cartes, je l'avais opérée avant parce que j'étais allé vers cette cathédrale après avoir eu un grave accident pour aller y chercher du secours. Donc j'avais déjà tout de même opéré en moi un changement de regard.
Vous parlez d'une résurrection psychologique. C'est-à-dire que c'est là-bas que vous avez réappris à marcher quelque part?
C'est ça, j'étais cassé en morceaux après une chute. On m'avait prescrit la rééducation et plutôt que d'aller sur des tapis roulants de centres sportifs, j'étais monté dans les tours par les escaliers de visite. Et je passais par la tour nord, je traversais la coursive au-dessus de la Rosace, selon le cheminement des touristiques, et je montais jusqu'au sommet de la tour sud et je redescendais. Sauf que pour moi, avec un corps abîmé, c'était un véritable calvaire au début. Puis après, ça a été une ascension très bénéfique parce que je retirais à la fois toute la vertu de l'escalade des escaliers, du fait de gravir des escaliers, et puis en même temps, je sentais infuser en moi le bénéfice d'être dans un édifice de calcaire, mais qui n'est pas qu'un édifice de calcaire, précisément.
Vous racontez aussi un moment qui est très émouvant, que j'aurais bien voulu vivre à vos côtés. C'est la nuit où vous avez pénétré la forêt. Vous parlez plutôt d'une jungle, même.
Oui, la forêt, c'est le nom que donnent les architectes à la charpente, ouais, qui a brûlé.
Ça ressemble à quoi? C'est un enchevêtrement de poutres, vous dites, mais comment on se le figure quand on n'y a jamais mis les pieds, parce que vous êtes un privilégié là, d'y aller?
Il faut imaginer une nef de bateau comme une barque. Ouais. On peut voir une barque assez facilement. On imagine une barque d'allumettes, et puis on la retourne. Et ça donne une charpente de bois. D'ailleurs, souvent, les charpentiers de marine et les charpentiers de cathédrale sont les mêmes. Et d'ailleurs, les poètes appellent les cathédrales des vaisseaux. Peggy appelait la cathédrale de Notre-Dame et la cathédrale de Chartres des vaisseaux de charge. Et il comparait les fidèles à des galériens qui rament de la nuque et de l'âme. Donc on peut imaginer un bateau retourné. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la foi, sinon une navigation sur des eaux incertaines et inconnues et probablement, enfin, et assez improbables, mais enfin, c'est quand même une navigation. Voilà, c'est comme ça qu'on peut imaginer la forêt. C'est une charpente, c'est un enchevêtrement, il n'y a pas de clous, c'est des emboîtements extraordinaires.
Ajusté au millimètre.
C'est un mikado. Ouais. Oui, c'est un ajustement, c'est une exactitude, c'est le génie des compagnons du 13e et du 14e siècle.
Il est venu le temps de rembobiner dans cette émission, Sylvain Tesson. Tous les jours, on fait revivre une voix qu'on a envie d'entendre pour faire réagir notre invité. Dans le transistor de Sylvain Tesson, une voix venue d'un autre temps, l'anarchiste exploratrice féministe Alexandra David-Nel. Elle évoque son séjour au Tibet dans le milieu des années 20. C'était au micro de France Culture en 54.
Il y a donc encore des ermites au Tibet? J'aimerais que vous nous en disiez quelque chose.
Mais oui, il y a des ermites au Tibet. Il y en a même un bon nombre d'ermites, eu égard à la faible population du pays. Il y a des ermites de différents genres. Certains vivent dans des cavernes qui ont été aménagées pour servir d'habitation. D'autres construisent des maisonnettes, généralement composées de deux pièces minuscules. Une cellule où l'ermite vit et une cuisine où il conserve ses provisions. Il y a enfin des lamas érudits qui s'installent très confortablement avec leur bibliothèque, leurs serviteurs, dans une maison située très à l'écart et très haut sur le versant d'une montagne.
Croyez-vous vraiment que l'on puisse être heureux en étant complètement séparé du monde?
Et j'ai goûté quelque chose de cela, car j'ai vécu en ermite sur le dernier versant des Himalayas. J'habitais une caverne à 3900 mètres d'altitude. On me ravitaillait, non pas une fois seulement par an comme les ermites, mais deux fois. Au printemps, quand ma provision d'hiver touchait à sa fin, et en automne, lorsqu'on me fournissait de ma provision d'hiver. Parce que les vallées qui s'étendaient au-dessous de mon ermitage étaient entièrement bloquées par la neige pendant la moitié de l'année.
L'étonnante voix d'Alexandra David-Nel. Sylvain Tesson, on recherche quoi quand on se retire comme ça, comme elle l'a fait, comme vous l'avez fait aussi?
Différentes choses. Je pense que chez Alexandra David-Nel, il y avait une volonté de percer des mystères mystiques. elle cherchait quelque chose. Moi, je l'ai fait, mais de manière plus existentielle. C'était plus une forme de jeu. J'étais dans une cabane au fin fond de la forêt. Et j'essayais de me débarrasser de tout ce qui fait notre alourdissement dans la ville, quoi. Je voulais simplement. C'était une posture plus esthétisante chez moi, plutôt qu'une recherche mystique comme Alexandra. Mais puis, si je finir comme elle, c'est-à-dire à 100 ans, avec cette voix dont les modulations trahissent une espèce de joie et de vitalité intérieure. À 100 ans, elle est allée refaire la prolongation de son passeport pour encore 10 ans.
Dans l'espoir de continuer à voyager.
Oui, bien sûr que oui, elle n'avait pas commencé à mourir, enfin, c'était pas elle.
En 2017, Sylvain Tesson, vous nous avez enchanté Un été avec Homer sur Inter, qui est devenu un livre à succès. Vous êtes livré à un exercice d'exégèse où vous, à partir de ce texte fondateur, vous faites aussi des liens avec notre société contemporaine. Vous l'avez écrit tout seul, vous l'avez raconté à maintes reprises sur une île, dans un pigeonnier, avec une chouette pour seule compagnie que vous aviez baptisée Athéna. Et l'aventure ne s'arrête pas là, puisqu'il y a une série qui se prépare pour Arte, dans le sillage d'Ulysse, avec Sylvain Tesson. C'est votre odyssée à vous, enfin en tout cas sur les traces d'Ulysse, à bord d'un voilier. Racontez-nous, vous êtes toujours encore et en mouvement. C'est
oui,
fou.
C'est un réalisateur qui s'appelle Christophe Rella, qui m'a proposé de répéter l'itinéraire d'Ulysse, si tant est qu'il ait existé, parce qu'on est dans la mythologie, donc on n'est pas tout à fait sûr qu'il y ait eu une circulation qui corresponde aux aventures de l'Odyssée. Mais il y a eu un certain nombre d'hellénistes, de penseurs et de chercheurs.
Jean-Pierre Vernant, par exemple.
Par exemple. Victor Bérard, dans les années 20, qui se sont amusés à essayer de retracer la cartographie d'Ulysse. Alors nous, on est parti de ces cartes des années 20 et on a refait un itinéraire. On est parti pendant 5 semaines à bord d'un voilier dans la Méditerranée et on a prétendu, mais c'est un jeu de l'esprit, on est allé, c'est comme les enfants quand ils jouent au jeu de piste ou aux cartes au trésor. On est allé retrouver l'île des sirènes, l'île du cyclope, l'île de Circé. On est allé au sommet du Vésuve, au sommet de l'Etna. On est allé jusqu'à Troie. Et en fait, on faisait quelque chose qui était tout de même pas que un jeu. C'était homérique. C'est-à-dire que nous pensions, quand je dis nous, c'est le réalisateur Rella et moi, nous pensions que Homer, le poète, s'est servi de la géographie et de tout ce que la Méditerranée exprime dans le vent, sa lumière, son ressac, ses falaises, sa géographie, son amitié permanente de l'eau, de la terre, des bêtes, des plantes, du climat. Et on pense qu'il a vu tout ça, il l'a observé, tout aveugle qu'il était, et il a versé tout ça dans son poème. Et on essayait c'est un jeu merveilleux d'essayer de se promener dans une géographie en extrayant le merveilleux.
Et si vous deviez être un personnage d'Homère, vous seriez qui ?
Mais
là, vous prenez les traces d'Ulysse, mais est-ce que vous êtes Ulysse ?
Non, mais attendez, tout le monde se dit « je suis Ulysse » parce qu'on a l'impression comme ça qu'on va être héroïque, très intelligent et très fort. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'était pas commode, c'était tout de même un drôle de type. Quand il rentre chez lui, il a assassiné absolument tout le monde dans un épisode très sanglant. Enfin, c'est
il n'avait pas raison, il n'avait pas raison de reprendre sa place ?
Si, bien sûr. En tout cas, il avait des motifs, il avait des circonstances qui pouvaient éventuellement l'autoriser à combattre. Oui, bien sûr, il serait un situait dans son bien. Il avait le sentiment d'avoir été injustement usurpé. Donc il a tenté de retrouver son trône. Mais à quel prix ? Non, moi, il y a des êtres qui me correspondent davantage, c'est-à-dire qui sont peut-être un peu moins radicaux. Et je pense à Elpenor.
Ah ben justement, ça tombe bien, je pensais à lui aussi.
Oui,
qui est un compagnon d'Ulysse.
Oui.
Et qui a un peu trop bu un soir chez Circé, quand Ulysse est resté chez Circé, et qui tombe de la terrasse du palais, qui fait une chute mortelle.
Il meurt, il tombe du toit, il était emboissonné, il tombe. Mais peu de gens vous diront
que... Pourquoi vous pensez à lui ?
Mais parce que d'abord, je trouve que c'est plus modeste que de dire, moi, vous comprenez, je me sens
je suis Hector, Achille,
vous Hector, Mélélas, c'est le plus beau, le plus fort, ou Priam, ou Paris, le plus beau.
Oui.
Non, je trouve que c'est plus modeste de se dire, on est un héros qui n'en est pas vraiment un, qui a trébuché, qui est tombé. Mais cela dit, il y a une tendresse chez Elpenor. Parce que quand il revoit Ulysse aux enfers, il lui dit, tu m'as oublié, vous ne m'avez même pas offert une sépulture. Et Ulysse, en revenant sur l'île de Circé, va d'abord sacrifiée à l'amitié. Et voilà la leçon d'El Pénor.
Et dans cette série, vous allez à la rencontre aussi des personnes. C'est pas simplement un voyage...
Non, ça n'est pas que un voyage de géographie. On est très... nous étions, avec notre équipe de tournage, très intéressés par l'idée que les Grecs ont divinisé les phénomènes climatiques, ça c'est une chose, mais on montre par les gens que l'on rencontre, des pêcheurs, des archéologues, des philologues, des habitants d'Ithaque, des passionnés de l'Odyssée, des poètes, on a essayé de montrer, des buveurs, des grands buveurs, des gens qui aiment la vie, on a essayé de montrer que Homère pas mort. C'est-à-dire que toute cette extraordinaire histoire qui a été écrite il y a 2500 ans résonne encore. Pas uniquement dans le champ de l'érudition, de l'université, de la recherche archéologique et philologique, non. Les gens qui sont sur les marchés, qui s'appellent Ulysse, qui s'appellent Aphrodite. On s'est fait servir un jour un café grec dans un bistrot par une jeune dame qui s'appelait Aphrodite. Et qui en plus portait bien son nom.
On a l'image tout de suite. Dans cette émission, on a décidé de pousser un petit peu les murs pour faire de la place à la poésie. Chaque jour sur Inter, une grande voix vous lit un texte.
Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur.
Vous l'avez reconnu, merci beaucoup Nagui, que vous retrouvez à la rentrée dans la bande originale, tous les jours à 11h, mais non Nagui, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce texte ?
J'ai choisi le cancre de Prévert, c'est dans son recueil des paroles, parce que il m'avait touché quand j'étais gamin, et la manière dont je l'avais entendu ou compris à l'époque n'est pas du tout la même manière dont je le ressens ou dont je l'ai ressenti ensuite. À l'époque, c'était vraiment celui qui fait rire la classe, celui qui s'en sort par une pirouette justement, et c'était ma philosophie de l'époque, c'est-à-dire chaque fois que j'étais dans l'embarras avec les copines d'école ou avec un professeur qui m'engueulait ou avec mes parents qui me grondaient, je faisais une pirouette, je faisais le clown, je faisais rire et je me disais ouais, comme ça je suis tranquille. Et c'est vrai que c'est l'arme de la facilité. Quand on n'est pas très fut-fut, on rit, on fait le zouave et on passe forcément à autre chose. Et avec le recul, avec toutes les questions que je me pose sur la légitimité, sur le pourquoi moi à tel endroit pour faire ça, et suis-je ou pas un usurpateur, et je laisse chacun choisir sa réponse. Au fond de moi, je me dis oui, je le suis, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit moi qui soit là et pas un autre. Il y a toujours aussi cette manière de se dire que finalement, le regard des autres, la manière d'être décalé, c'est finalement un style de vie aussi, et que jouer la carte de l'originalité, de la création, jouer la carte du bonheur. Mais c'est le chemin qui compte, hein. C'est pas le bonheur, on l'atteint jamais, c'est le chemin qu'on choisit pour y aller. Ça me plaît encore plus, voilà. Puis Prévert, quoi. Il a tout compris. Puis même en termes de, pardon, hein, en termes de marketing, parole, c'est juste un titre, un mot. Je trouve ça tellement avant-gardiste. Ça pourrait être une émission de Canal Plus branchée à l'époque. Non, non, il avait déjà... C'est parce que tout est là, quoi. Tout est dans le mot et dans le verbe.
Voilà. Merci beaucoup,
Nagui. Je voulais être votre cancre de cet été,
Leïla. Ça me fait tellement plaisir.
Belle été. Merci à vous aussi.
Nagui à qui je pense et qui me manque. Sylvain Tesson, quelle place occupe la poésie dans votre vie ? Vous en lisez, vous en écrivez, c'est...
Oui, j'en lis beaucoup lorsque je chemine à ski de randonnée l'hiver, à pied l'été, dans des très très longues marches. C'est une merveilleuse occupation du temps, mais au sens de l'occupation du terrain. Mm-hmm. Parce que dans ces grandes marches, le temps se dilue, se distend. On peut parfois être étreint par une certaine monotonie quand on marche longtemps, ou quand on progresse dans une montagne. Et le petit recueil de poésie qu'on a dans la poche, c'est merveilleux, quoi. Puis il y a une scansion, le rythme des pas qui tout à coup se superpose au rythme du poème. Et puis la poésie apprend quelque chose, parce qu'il y a la poésie imprimée, ça c'est le vers, c'est ce que lit Nagui quand il nous lit le poème de Prévert, mais il y a autre chose, il y a le regard poétique. C'est-à-dire que la poésie, c'est le monde qui accepte d'être décrit par des mots qui n'ont rien à voir avec lui. Et si vous transposez cela à votre capacité d'observation du monde, vous essayez d'extraire, de regarder autour de vous ce qui est susceptible de vous enchanter ou ce qui n'apparaît pas d'un prime abord, quoi. C'est ça le regard poétique. Alors quand on vit dans les bois, ce qui est mon cas, ou dans la montagne, j'adore ça, j'essaye désespérément, je sais pas si j'y arrive, mais à regarder les choses avec
cette poésie-là.
Oui, avec ce microscope et ce télescope. J'essaie de regarder ce qui n'apparaît pas.
Dans le Mac de l'été, on est un peu des vampires, on aime bien repartir avec de nouvelles références, de nouvelles idées de lecture. Il y a un auteur que vous aimez offrir, c'est Paul Léoto. Il a signé le journal littéraire, on voulait juste vous faire entendre sa voix rapidement.
Je crois que lorsque je suis en société, je suis drôle, je suis amusant, j'ai des réparties, tout ça, n'est-ce pas? Enfin, on trouve que je suis très drôle, enfin, très amusant, très spontané, que j'ai des répliques vives. Mais chez moi, je me foutrais à l'eau. Quand je suis seul chez moi, je me foutrais à l'eau.
Vous avez donc une espèce de nostalgie très profonde que vous portez en vous depuis votre enfance. Et que
je ne sais pas une nostalgie, je ne regrette rien, je ne regrette pas. Je ne regrette pas le bonheur, ça ne m'intéresse pas du tout, n'est-ce pas?
Paul Léoto en 51, pourquoi vous offrez cet auteur? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui?
Son sarcasme permanent, son espèce de colère, c'est un homme en colère. J'ai l'impression de voir un type qui est peuplé d'ours. Hein. D'ailleurs, c'était le cauchemar du pauvre Malais qui essayait de l'interviewer à chaque question qu'il posait. Léoto commençait par « Mais non, pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est le contraire, vous dites n'importe quoi, comment pouvez-vous croire, comment pouvez-vous dire ce que vous êtes en train de me dire, mais non. » Enfin, heureusement que vous n'avez pas tous les jours devant vous un Léoto, parce que ça devait être...
C'est pénible.
Oui, c'est type impossible d'interviewer. Et puis en même temps, il opposait à ce chagrin rentré, cette macération extrêmement toxique. C'est un homme qui pratiquait l'auto-intoxication. Il était lui-même une maladie auto-immune, mais il offrait un correctif, un antidote, qui était d'abord une grande finesse de goût. C'était l'homme du qui allait au théâtre, qui savait ce qu'il fallait aller voir, qui aimait des auteurs qui étaient parfois qui n'avaient pas de caisse de résonance très puissante. Il savait détecter des choses, il avait une finesse, il aimait les lettres et il aimait les bêtes.
Il y en a un autre qui aimait les bêtes, c'est André Blanchard. Ça, c'est une autre de vos références. On va pas avoir le temps forcément de l'évoquer aussi bien qu'on aimerait, mais quelques mots sur André Blanchard pour le faire découvrir à nos auditeurs et leur donner envie de le lire.
J'avais jamais pensé à faire un lien entre Léoto et Blanchard, mais il y en a un. C'était deux êtres blessés, deux êtres solitaires. Peut-être s'étaient-ils un peu retirés de la communauté de leurs semblables. Peut-être vivaient-ils un peu dans le commerce des bêtes et des livres. C'est-à-dire de deux interlocuteurs qui, finalement, ne vous font pas beaucoup de mal.
Au fil de vos livres, Sylvain Tesson, se dessine votre portrait aussi de voyageur. On a bien compris que les tours opérateurs, c'était pas vraiment votre tasse de thé, que vous recherchiez une expérience de vie avec des étrangers ou seuls. Ici, dans le Mac de l'été, on est des adeptes du voyage immobile. Pas de bilan carbone désastreux. Aujourd'hui, on va s'évader. On vous entraîne à l'Est avec la Lituanienne Alina Orlova, qui chante aussi en russe, on a pensé à vous, Licho Ratka sur France Inter. Thank you. Merci à vous, merci Sylvain Tesson, Notre-Dame de Paris aux Reines de Douleur aux éditions Équateur. Le mot de la fin avant de vous laisser repartir.
La flèche, faut pas les suivre, ni dans les incendies, ni dans le conformisme.
Merci Sylvain Tesson d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aussi à toute mon équipe, Hélène Biziot à la réalisation, Elisabeth Collet à la technique, Marie-Laurent Chéry, Raphaël Grimmarki à la programmation, Jean-Baptiste Audibert au platine, sans oublier mes deux petites puces, Anouk Valverde et Maïlan Loaec. Demain, le Mac de l'été va vous rhabiller de pied en cap avec la grand reporter Raphaël Baquet pour son livre enquête sur le couturier Karl Lagerfeld. Rendez-vous donc à 18h et belle fin de journée à vous, les amis, sur France Inter.